L'évangile de Marc rapporte une conversation très édifiante entre Jésus et un scribe, c'est-à-dire un expert de la loi de Moïse. On appelait aussi les scribes les docteurs de la loi. L'un d'entre eux s'approcha de Jésus et lui demanda : Quel est le premier de tous les commandements ? Jésus répondit : Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le scribe lui dit, « Bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » En lisant ce texte, une question vient immédiatement à l'esprit. Qu'est-ce que le royaume? Cette expression se retrouve très souvent sur les lèvres du Christ. Ici encore, il situe le scribe par rapport au royaume, en lui déclarant qu'il n'en était pas loin. En lisant les Écritures, il n'est pas possible de rencontrer une définition précise du royaume. C'est pourquoi nous nous efforcerons d'être prudents dans nos conclusions. Nous avons dit « conclusion », car il est possible d'en tirer à partir de nombreuses données bibliques sur ce sujet. Le royaume est en effet un thème important dans la prédication du Christ. Avec lui, le royaume s'est approché. Il insiste sur le fait qu'avant toute chose, il faut chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Il dit encore « Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. » Dans une parabole parmi les mieux connues, il met en garde contre les richesses qui peuvent rendre difficile l'accès au royaume. Je vous le dis, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Dans ce même contexte, plusieurs indications précises nous permettent de constater que dans l'esprit du Christ, le royaume est synonyme de vie éternelle ou de salut. Comme il y a un salut, il y a aussi un message du salut. Jésus explique dans la parabole du semeur que la parole de Dieu est la semence du royaume. Aussi, Jésus allait-il de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et cette bonne nouvelle est précisément le fait que la repentance et le pardon des péchés serait prêché en son nom à toutes les nations. Le royaume est donc intimement lié à la promesse de rémission des péchés au nom de Jésus-Christ. C'est d'ailleurs quelques semaines seulement, après l'ascension du Christ, que ce message de pardon sera proclamé sur l'ordre du Christ. À ceux qui demandèrent « Que faut-il que nous fassions pour être sauvés ?» les apôtres répondirent « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Dans la fièvre qui se saisit de la foule, les apôtres conjuraient et exhortaient, disant « Sauvez-vous de cette génération perverse !» C'était un appel à constituer un peuple à part, qui n'aurait plus rien de commun, spirituellement, avec le monde. C'était un appel au détachement de la loi du monde pour se soumettre à la loi de Dieu et bénéficier de son pardon. Ce jour-là, il y eut 3 000 baptisés, 3 000 convertis. La première Église du Christ était née. Elle était, comme elle l'est encore aujourd'hui, constituée par ceux qui sont sauvés en Christ. À ce point, nous devons préciser que l'Église n'est pas le royaume de Dieu dans le sens absolu. L'Église est en marche vers cet état final, parfait et complet que Jésus appelle le royaume de Dieu ou le royaume des cieux. Néanmoins, cette Église du Christ est un avant-goût de ce royaume céleste. Et dans la mesure où elle est le peuple de Dieu ayant Jésus pour roi, l'Église est déjà, par anticipation, le royaume de Dieu. Car elle est l'Église qu'il s'est acquise par son propre sang. C'est pour elle qu'il s'est livré lui-même, afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Pour signifier le caractère à part de l'Église, l'apôtre Paul exhorte les membres à la reconnaissance envers Dieu, lequel nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Ce dernier passage souligne distinctement le fait que l'Église est constituée par ceux qui ont été soustraits à l'empire du péché et qui ont été transférés dans le royaume du Christ, en qui ils trouvent pardon et salut. L'apôtre Pierre ne dira-t-il pas en outre, « Aux chrétiens, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Toutes ces déclarations apostoliques nous montrent que si l'Église n'est pas absolument le royaume, elle est une garantie du royaume céleste. Elle en est l'antichambre, en quelque sorte, visible sur la terre, dans la mesure où elle est le peuple de Dieu, nous le répétons, où elle est sous la domination du Christ, et où elle a sa parole comme loi. Nous pouvons en outre affirmer, avec les Écritures, que les citoyens de son royaume sont ceux qui ont obtenu miséricorde et à qui Dieu a pardonné les péchés par Jésus-Christ. Le royaume est ainsi un état d'âme. C'est un asile d'assurance devant Dieu en son Fils. Paul n'a-t-il pas dit, « Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. » Or, notre scribe, en conversation avec Jésus, ne se trouvait pas loin de ce royaume, où règne le pardon, la justice, la paix et la joie. La grande majorité de ses contemporains était loin du royaume. Les pharisiens, à cause de leur formalisme outrancier. Les sadducéens, par leur scepticisme et leur arrogance. Les publicains, par leurs vices et leurs dérèglements. La multitude, à cause de son ignorance foncière. Notre scribe, lui, possédait une notion de la religion plus profonde, plus authentique que la plupart de ses contemporains. Et nous pouvons ici mesurer toute la portée des paroles de Jésus sur ces juifs formalistes, pour lesquels il n'existait pas de plus grande expression de la religion que le respect du sabbat et de la circoncision. Leur religion se bornait aux manifestations extérieures, à tout ce qui est essentiellement cérémoniel. Chers amis, n'est-ce pas une image de l'atmosphère religieuse de notre temps ? Supprimez les fastes, les cérémonies, les traditions, et que reste-t-il ? Ceux qui aujourd'hui préconisent la simplicité dans le culte, le dépouillement, le retour vers une simplicité du cœur, vers la limpidité de la source, ne sont pas toujours reçus avec beaucoup d'enthousiasme par leurs contemporains. Le scribe, en conversation avec Jésus, avait compris, mieux que bon nombre d'entre nous, qu'il n'y a pas plus grand commandement que ce que Jésus venait d'énoncer, qu'une religion faite essentiellement de rites et de cérémonies était sclérosée dans la tradition, vide de sens et donc vaine. « Bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a pas d'autre que lui et que l'aimer de toute sa pensée, de toute son âme, de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. C'est précisément cette intelligence qu'il avait de la volonté de Dieu à l'égard des hommes qui lui valut cette remarque du maître, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Remarquons cependant que tout en étant à la frontière du royaume annoncé par le Christ, cet homme n'en était pas moins à l'extérieur. D'un côté, c'est le royaume des désorientés, des perdus. Il y a là ceux qui cherchent, comme ce scribe, ceux qui ne cherchent pas et ceux qui ne cherchent plus. Et de l'autre, c'est le royaume des sauvés en Christ. D'un côté, c'est le désert et de l'autre, c'est la terre promise. Certains se contentent de cette proximité. Ils sont sympathisants de la doctrine du Christ, mais ils ne veulent pas s'engager. Ils sont encore trop attachés aux choses de la terre et aux espérances du monde. Ils vivent encore comme s'ils étaient persuadés que la mort ne les visitera jamais. Ils sont comme ces gens qui, entendant les enseignements de Jésus, croyaient en lui, mais ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus par les bien-pensants de leur temps. D'autres s'imaginent déjà appartenir à ce royaume des justifiés parce qu'ils se sentent naturellement bons, qu'ils ont des principes et de la moralité. Cela revient à dire que le Christ est mort pour rien. Car après tout, en faisant la comptabilité de nos bonnes œuvres et de nos bonnes dispositions naturelles, nous nous persuadons que le salut nous revient de droit. Ne nous attardons pas sur cette dernière attitude si foncièrement orgueilleuse et suffisante. car nous savons que ce ne sont ni notre moralité, fût-elle grande, ni nos bonnes œuvres, fussent-elles nombreuses, ni notre bonté naturelle, fût-elle exemplaire, qui nous sauveront. C'est le sang du Christ, c'est la grâce de Dieu et sa miséricorde. Nul ne peut passer la frontière qui le sépare du royaume de Christ s'il ne mesure d'abord l'immense différence qui existe entre ce qu'il est et ce qu'il devrait être. S'il n'entrevoit d'abord la grande place que le péché occupe dans sa vie, il doit découvrir dans le Christ un sauveur personnel. Il doit entendre et répondre à sa voix qui lui dit « Viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, et je te donnerai du repos. Prends mon joug sur toi et reçois mes instructions. » Il doit entendre cette voix qui lui dit avec fermeté « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Cette déclaration du Christ est formelle. Jésus parle d'une régénération nécessaire, préalable à cette entrée dans le royaume. En quoi consiste cette nouvelle naissance? Il s'agit, selon l'expression des Épîtres, de la purification de nos âmes par l'obéissance à la vérité. Il s'agit d'un renouvellement de l'homme intérieur par la semence incorruptible, c'est-à-dire par le message annoncé dans l'Évangile. Tel qu'il est, l'homme est imparfait, même avec ses qualités réelles. L'Évangile lui donne le moyen de devenir enfant de Dieu. Il lui permet de s'identifier avec le Christ, en s'associant à lui dans sa mort et sa résurrection, par la foi, le repentir, par le baptême, par l'engagement que tout cela consiste. Chers amis, Jésus peut-il vous dire « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu ».